Nombre chapitre 19, et nous allons lire le chapitre du début. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Voici ce que prescrit la loi de l'Éternel. Demandez aux Israélites de vous amener une vache rousse, sans défaut et sans tache, qui n'ait pas encore porté le joug. Vous la remettrez au prêtre Éléazar. Celui-ci la mènera à l'extérieur du camp et on l'immolera en sa présence. Il prendra du sang de la vache avec son droit. Il en fera 7 fois l'aspersion en direction de l'entrée de la tente de la rencontre. Puis on brûlera la vache sous ses yeux, peau, chair, sang et excréments. Ensuite, le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'hysope et un fil de laine teint en rouge éclatant, et il les jettera au milieu des flammes où se consume la vache. Après cela, il lavera ses vêtements et se baignera avant de rentrer dans le camp. Néanmoins, il sera rituellement impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera aussi ses vêtements et se baignera, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme rituellement pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp, dans un endroit pur, où elles seront conservées pour la communauté des Israélites, pour la préparation de l'eau de purification. Cela équivaut à un sacrifice pour le péché. Celui qui aura recueilli les cendres de la vache lavera aussi ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera pour les Israélites aussi bien que pour l'immigré installé au milieu d'eux, une ordonnance en vigueur à perpétuité. Celui qui touchera le cadavre d'un homme, quel qu'il soit, sera rituellement impur pendant 7 jours. S'il se purifie le 3e et le 7e jour avec cette eau, il sera pur, sinon il restera impur. Si quelqu'un touche un cadavre et néglige de se purifier, il souille le tabernacle de l'Éternel. Cet homme sera retranché d'Israël, parce que l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il est encore souillé. Son impureté reste attachée à lui. Voici la loi qui convient de suivre si quelqu'un meurt dans une tente. Tous ceux qui entrent dans la tente, comme tous ceux qui se trouvent déjà dans la tente, seront impurs pendant 7 jours. Tout récipient ouvert sur lequel il n'y a pas de couvercle attaché sera impur. Si quelqu'un touche dans les champs le cadavre d'un homme tué par un autre ou mort naturellement, ou bien bute sur ses ossements humains ou sur une tombe, il sera impur pendant 7 jours. Pour le purifier, on prendra des cendres de la vache consumées en sacrifice pour le péché. On les mettra dans un récipient et l'on versera dessus de l'eau de source. Un homme en état de pureté prendra une branche d'hysope et la trempera dans l'eau. On aspergera la tente où quelqu'un est mort, ainsi que tous les ustensiles et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il fera de même pour celui qui a touché des ossements, le cadavre d'un homme tué par un autre ou mort naturellement, ou une tombe. L'homme pur aspergera celui qui est souillé le 3e et le 7e jour. Le 7e jour, il le purifiera entièrement de sa faute. L'homme impur lavera ses vêtements et se baignera. Et le soir, il sera pur. Mais si l'homme qui s'est souillé néglige de se purifier ainsi, il sera retranché de la communauté, car il souille le sanctuaire de l'Éternel. Puisque l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il reste impur. Ce sera pour eux une ordonnance en vigueur à perpétuité. Celui qui aura fait l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera cette eau sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera l'homme impur sera impur, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Merci de garder ce texte ouvert. Une question. Qui aime le poisson? Qu'est-ce qui aime le poisson? Voilà, plusieurs. À très bien.
Oh my God.
Parce que j'ai des... Voilà. J'ai pris des sardines.
Merci.
Donc, ceux qui aiment les poissons, est-ce que vous voulez les caresser?
Non.
Les toucher?
Oui, moi, je vais les manger.
Ouais, pareil. Non, t'as pas du soin.
Alors désolé, ceux qui sont sur Zoom, on va tourner la caméra pour que vous puissiez voir.
T'as pas un souci. Ah mon Dieu, c'est quoi ce truc? Non,
qu'est-ce qu'il voit sur Zoom?
Change. Je change de logiciel ici. Change de logiciel ici.
Mais non, mais il fait clic.
Je vais le manger.
Donc c'est j'attends qu'il mange.
Je vais le manger quand même.
Voilà.
Ah, c'est...
Bon, il voit bien.
Alors, qui veut...
Non, merci.
Qui veut caresser un poisson?
Tu peux des mains, frère.
Oui,
c'est ça. Ah, l'idée, il aime
bien. Tu me touches pas.
Quelqu'un en veut?
Tu me touches plus.
Hein. Une fois que vous avez caressé le poisson, vous pouvez passer à votre voisin.
C'est bon.
Il ne faut pas que vous soyez plus de ce côté.
Pardon.
Va
te laver les mains.
Ouais. On va se laver les mains maintenant.
Oui, parce qu'il va distribuer la salle.
Ouais,
ça fait partie de...
Bon, voilà. Pur.
Je pourrais parler, tu t'expliquais avant.
J'aime beaucoup.
Là, on peut laver là.
Les messages de Jonathan sont vraiment très, 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 très concrets. on est dans le vif du sujet.
Non, ça va.
Ça va, c'est bon.
Alors, ceux qui ont touché le poisson,
oui.
Votre main, ça sent
très bon. C'est dégueulasse.
Non,
c'est
bon.
C'est dégueulasse. Je
te retourne,
mais maintenant, ça sent la violette.
Alors, si on vous disait, tiens, avant de vous laver les mains, ah, je vous présente Monsieur le maire. Ah, bonjour, Monsieur le maire. Mais, heureusement, on a du gel. Alors, qui veut du gel?
Oh, c'est bon,
c'est bon. C'est bon,
c'est
bien.
C'est que moi qui ai la main.
Qui en aime l'odeur d'un sardine.
Encore ça va, il nous a pas fait un petit barbecue. Ah,
c'est bon.
Oui, c'est bon, mais alors. La sardine de barbecue, c'est violent. Hein.
Ah oui,
quand même. C'est violent.
Ma main sent plus bon qu'avant, je crois.
Ouais. Alors, donc. Pourquoi une certaine hésitation quand je vous ai proposé le poisson? On sait, toucher un poisson, c'est... Ouais, c'est pas tout ça, quoi. C'est... Bon, je sais que j'aurais moins qui... Ouais, même avec le gel, peut-être il y a... Ça reste, peut-être. On se dit, mais je suis pas... C'est pas très propre, après, avoir du poisson sur les mains. Je vais pas... Voilà, j'aime pas me salir comme ça. Toucher un poisson, et en plus, c'est mort, c'est... Ouais. Mais heureusement qu'on a... J'ai encore des écailles. Heureusement qu'on a du gel, on a des lingettes. On a des lingettes parce que... J'en ai besoin. Quelle est l'idée principale dans le passage que nous venons de lire? Bah, c'est que Dieu pourvoit un moyen pour rendre pur ceux qui sont impurs. Dieu pourvoit, Dieu donne un moyen pour purifier ceux qui sont impurs. Et pour comprendre ce qui se passe dans ce chapitre, peut-être à la lecture, vous avez dit, mais c'est un peu bizarre. Pourquoi, c'est quoi cette histoire de vaches et de cendres et d'eau Trois questions. Qu'est-ce qui rend les gens impurs? Comment peut-il être purifié? Et pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui rend les gens impurs? Comment peuvent-ils être purifiés? Et pourquoi c'est important? Première question. Qu'est-ce qui rend les gens impurs? Ben ici, c'est le contact avec les morts, avec un cadavre ou des ossements ou une tombe. Nous voyons cela au verset 11. « Celui qui touchera le cadavre d'un homme, quel qu'il soit, sera rituellement impur pendant 7 jours. » Au verset 14. « Voici la loi qui convient de suivre si quelqu'un meurt dans une tente. » Tous ceux qui entrent dans la tente, comme tous ceux qui s'y trouvent, qui se trouvent déjà dans la tente, seront impurs pendant 7 jours. Verset 16. Si quelqu'un touche dans les champs le cadavre d'un homme tué par un autre ou mort naturellement, ou bien bute sur des ossements humains ou sur une tombe, il sera impur pendant 7 jours. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord saisir le concept d'être pur ou impur, parce que c'est l'idée centrale. Quand Dieu a donné la loi aux Israélites au mont Sinaï, il y avait différentes parties à cette loi. Il y avait la partie sur les instructions morales ou éthiques, y compris les 10 commandements et d'autres instructions pour comment vivre. Ne tuez pas, ne volez pas, ne commettez pas d'adultère, etc. Puis il y avait une partie de la loi, c'était plutôt le code civil, comment gérer, comment Israël allait fonctionner comme une société. Donc il y avait des lois sur le travail, sur ce qui se passe si quelqu'un vole le bien d'un autre, etc. Et puis il y avait des lois cérémoniales qui concernaient l'adoration de Dieu dans le tabernacle. Et une grande partie de cette troisième partie de la loi, c'était les notions de pureté et impureté, rituelle. Et en gros, si on était rituellement pur, on pouvait participer à l'adoration de Dieu au tabernacle. On pouvait s'approcher de Dieu. On ne pouvait pas aller jusque dans le lieu très saint, mais on pouvait venir au tabernacle et participer à l'adoration. Mais si on était rituellement impur, ce n'était pas possible. Il fallait rester à l'écart. Et il y avait différentes choses qui rendaient les gens impurs, rituellement impurs. Certains concernaient la maladie, comme la lèpre. Il y avait des choses qui étaient liées à la sexualité, les rapports sexuels, les règles ou l'accouchement, ou bien on pouvait devenir impur en touchant quelque chose d'impur. Il y avait également des animaux purs et impurs, des animaux qu'on avait le droit de manger et des animaux qu'on n'avait pas le droit de manger. Et si on devenait impur, qu'est-ce qu'il fallait faire pour redevenir pur? Ben, parfois, ça impliquait un sacrifice. Parfois, il fallait simplement se laver et attendre le soir, parce que c'était le début de nouveaux jours. Et quelqu'un qui était devenu rituellement impur, on ne considérait pas cette personne comme coupable d'un péché quelconque. C'était simplement un état qui empêchait cette personne de participer à l'adoration. On ne considérait pas que cette personne était mauvaise, mais qu'il y avait quand même un état qui les empêchait de participer à l'adoration jusqu'à ce que cette personne ait fait le nécessaire pour redevenir rituellement pure. Et c'était un rappel de la nature exigeante de Dieu, de sa sainteté. On ne pouvait pas venir à Dieu comme ça. On disait les mains dans les poches. Comme on voulait. Il fallait respecter les règles qu'il avait données. Et donc ce texte décrit une source d'impureté rituelle, et c'est la mort. Toucher un cadavre, ou un ossement humain, ou une tombe, ou être dans une tente où quelqu'un décède, En fait, ça vous rendait impur. La mort dans la Bible, ce n'est pas quelque chose de normal ou de neutre. Au début de la Bible, on voit comment la mort est entrée dans le monde comme une conséquence du péché. Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont rejeté son règne, et le résultat, c'était une séparation avec Dieu, la perte de relation et la mort. La mort est un intrus dans ce monde, un signe que les choses ne sont pas en règle avec Dieu. Et donc il n'est pas surprenant que contact avec un mort rend les Israélites impurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les voitures, avant qu'on avait des étiquettes 1, 2, 3, 4, 5 ou 0, il y avait des pics de pollution où on disait, en fait, la moitié des voitures, en fait, toutes les voitures dans le numéro se terminent par un nombre pair. En fait, eux, ces voitures-là, elles ont le droit de rouler et les autres, non. Et puis le lendemain, c'était le contraire. En fait, c'était des voitures impaires qui avaient le droit de rouler et les autres, non. Alors, si on réfléchissait, en fait, c'est pas que ce soit voiture paire ou impaire qui change la pollution de cette voiture. C'était simplement, voilà, une règle. Comme ça, en fait, la moitié des voitures sont considérées impures un jour, et puis ça change le lendemain. Et de manière similaire, ceux qui ont eu le malheur de toucher un mort ou être dans une tente où quelqu'un est mort, ce n'étaient pas des pères pécheurs que les autres Israélites. Mais le fait qu'ils n'avaient pas le droit, pendant un temps, de venir adorer Dieu au tabernacle, c'était un rappel qu'en fait tous les Israélites sont pécheurs et que c'est un problème et que c'est un obstacle à la relation avec Dieu. Comment peut-on comprendre cette partie de la Bible? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? La première chose à faire, c'est de tracer le lien vers le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, et voir ce qui se passe à cette notion de pureté, impureté rituelle. À la réponse, c'est très clair, avec l'arrivée de Jésus, ce système prend fin. Avec Jésus, ce système prend fin. Jésus a dit, ce n'est pas ce que mange une personne qui le rend pur ou impur, c'est ce qui sort de son cœur. Les pensées mauvaises, l'immoralité sexuelle, le vol, le meurtre, l'adultère, c'est ça qui nous rend impurs. Et ça sort, c'est déjà en nous. Ce n'est pas un aliment qui entre en nous et qui nous rend impurs. Jésus n'avait aucun problème pour toucher des lépreux. Ou même des cadavres. Parce que quand il a ressuscité des gens, il les a touchés. Et Jésus, il s'en fichait si ses disciples se lavaient comme il fallait rituellement, comme David nous a décrit avec le pot à deux anses pour faire ce genre de lavement rituel. Jésus dit, mais c'est pas grave. Jésus dit, le vrai problème, ce n'est pas avoir touché du poisson, c'est ce qu'on a dans le cœur. C'est ça le problème que nous devons régler. Nous sommes moralement sales, moralement impurs. Nous n'agissons pas, nous ne pensons pas, nous ne parlons pas comme il faut. Et le péché, ce n'est pas une maladie contagieuse que l'on attrape de l'extérieur. C'est quelque chose qui est déjà en nous. Et Jésus dit, c'est ça qui est grave, parce que cela nous sépare de Dieu. Et déjà avant d'aller plus loin, est-ce qu'on s'est rendu compte que cela est bien vrai pour nous? La jalousie qui surgit quand on voit le nouveau smartphone de notre ami, ou bien ces paroles blessantes qu'on a prononcées contre un membre de notre famille qu'on n'aime pas, ou bien le désir de nous venger sur ce collègue qui nous a maltraités, ou cet égoïsme de vouloir plaire à moi et je m'en fiche de tous les autres. Et ce péché qui sort de notre cœur et qui montre que nous ne sommes pas purs. Nous ne pouvons pas prétendre être acceptables à Dieu. Nous ne pouvons pas imaginer que, fait comme ça, on peut venir devant Dieu et vivre l'amitié avec lui. Parce que ce n'est pas vrai. Le péché nous rend impurs. Et est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on a ce problème? Qui que nous soyons, quel que soit notre style de vie, quelles que soient nos croyances religieuses, est-ce qu'on s'est rendu compte que c'est ça ce que la Bible dit sur nous? Aucun de nous n'est pur à cause du péché dans notre cœur. Mais alors, que peut-on faire? Que faire de ce problème? Cela nous amène à deuxième aspect de ce texte. Comment le peuple peut-il se purifier? Comment le peuple d'Israël peut-il se purifier? Par le sacrifice, par le lavement et par l'attente. Et nous voyons cela dans les versets 1 à 10. 1 à 10, c'est ce qu'il fallait faire de cette vache rousse. Donc en gros, il faut la sortir du camp, il faut le tuer, égorger, prendre un peu de son sang et l'asperger en direction de la tente, du tabernacle. Et après, il faut brûler cette vache. Et en brûlant, il faut ajouter des choses au feu. De l'hysope, un fil de laine teint en rouge. On jette ça dans les flammes. Et on finit avec un gros tas de cendres. Et les cendres, on les récupère dans un pot. Et plus tard, dans les versets 17 à 19, avec ces cendres, on fait une espèce d'eau de purification. On verse de l'eau sur ces cendres et en fait, ça fait une espèce de solution liquide. C'est comme une recette de cuisine, presque. Avec cette eau, on asperge les choses ou les personnes impures le troisième jour, après la souillure, et le septième jour. Donc qu'est-ce que ça demande? Ça demande qu'on sacrifie un animal qui a de la valeur. Quand une vache rousse, ça avait de la valeur. L'eau doit être appliquée à deux moments précis, le troisième jour, le septième jour. Et le processus en entier, ça prend une semaine. Et Dieu décrit exactement comment on doit faire cela. Et si on suivait ces instructions, on redevenait pur. Si on suivait les instructions, on redevenait, à la fin de la semaine, pur. La personne qui était devenue impure en touchant un cadavre pouvait redevenir pure et de nouveau participer à l'adoration au tabernacle. Avec nos quatre filles, je ne me souviens plus le nombre de fois qu'on a eu des poux. On va à l'école et il y a l'affiche « Les poux sont de retour !» Génial, super. Et voilà, au moins on sait maintenant, à force, comment faire quand on a des poux. On va acheter le shampoing spécial, on a un peigne très fin. Et on a regardé des tutos sur YouTube, comment faire pour éliminer jusqu'au dernier poux. Ça prend du temps, c'est pas très joyeux, mais au moins ça marche. On a trouvé la solution. Si on suit les consignes, si on suit les instructions, on peut être sûr qu'il n'y a plus de poux chez les filles. Dieu a pourvu une manière, un moyen pour les Israélites de redevenir purs après qu'ils aient touché un cadavre. C'était pas facile, ça prenait du temps, mais c'était efficace. Et nous alors? Si notre problème, c'est le péché de notre cœur, alors quelle est la solution? Dans les évangiles, Jésus nous explique que la solution à ce problème, c'est sa mort à la croix. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus pour nous rendre purs. Jésus est mort comme un sacrifice. Comme la vache rousse, il a pris sur lui la punition que méritent nos péchés. La colère, la juste colère de Dieu contre notre péché a été déversée sur lui alors qu'il mourait sur la croix. Mais alors, nous, comment on bénéficie de cela? Pour l'Israélite qui avait touché un cadavre, ce n'était pas suffisant de savoir qu'on avait sacrifié la vache rousse. Ce n'était pas simplement savoir que cela a eu lieu. Il fallait que ce mélange de cendre et de l'eau soit aspergé, soit mis sur la personne concernée pour la rendre pure. Et aujourd'hui, le simple fait de savoir que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, cela n'est pas suffisant pour nous rendre purs. Le simple fait de savoir cela, nous devons nous associer à ce sacrifice en nous détournant du péché, en croyant que Jésus est notre Seigneur et Sauveur et en demandant à Dieu de nous pardonner. Et la nouvelle merveilleuse, c'est que nous pouvons être totalement purifiés. Nous pouvons être totalement pardonnés. Tous nos péchés, depuis notre naissance jusqu'à la fin de nos jours, peuvent être pardonnés. Non simplement jusqu'au prochain péché, mais une fois pour toutes. Et le sacrifice de Jésus est tellement mieux que ce qu'avaient les Israélites. Mais si nous voulons bénéficier de son sacrifice, il nous faut suivre les instructions, les consignes. Faire ce qui est nécessaire pour que son sacrifice soit efficace pour nous. Et donc, je dois vous demander ce matin, est-ce que vous avez fait cela? Est-ce que vous vous êtes repenti de vos péchés? Est-ce que vous avez mis votre confiance en Jésus? Ou est-ce que vous imaginez qu'il suffit juste d'avoir entendu parler de Jésus? Ou de venir à l'église? Ou bien de lire la Bible un peu? Il faut que le sacrifice de Jésus soit appliqué à vous pour être efficace. Et cela, c'est par la foi. C'est en croyant personnellement en Jésus et ce qu'il a fait. Et donc je vous repose la question. Est-ce que vous avez fait cela? Et si c'est votre cas, est-ce que vous savez que vous êtes totalement purifié, pardonné? Que chaque péché a été annulé, couvert, effacé vis-à-vis de Dieu, et que Dieu vous a rendu totalement pur, que vous êtes apte à vivre en relation avec lui. Alors c'était quand la dernière fois que nous avons pris un petit moment pour remercier Dieu, pour le louer, si c'est notre cas. Donc on a vu ce qui rend les gens impurs, comment ils peuvent être purifié, mais cela nous amène à notre troisième question. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Et la réponse assez solennelle, c'est que les gens qui ont décidé de rester impurs sont retranchés du peuple de Dieu. Nous voyons cela d'abord au verset 13. Si quelqu'un touche un cadavre et néglige de se purifier, il souille le tabernacle de l'Éternel. Cet homme sera retranché d'Israël, parce que l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il est encore souillé, son impureté reste attachée à lui. Et encore au verset 20, Mais si l'homme qui s'est souillé néglige de se purifier ainsi, il sera retranché de la communauté, car il souille le sanctuaire de l'Éternel. Puisque l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il reste impur. Dieu a expliqué comment il fallait faire pour redevenir pur. Mais si les gens qui ont touché un cadavre ne suivent pas les instructions, alors, et la réponse, c'est très clair, ils ne peuvent pas rester dans la communauté d'Israël. Ils seront retranchés. Ils seront exclus, mis dehors, chassés. Ils n'appartiendront plus au peuple de Dieu. Ils ne bénéficieront plus de tous ces privilèges. Décider de rester impur a des conséquences, mais énormes. Et quelle est la raison ? C'est que Dieu ne permettra pas des gens qui sont devenus impurs de cette manière et qui ont refusé la solution. Il ne permettra pas à ce que ces personnes-là restent dans sa présence, restent proches de lui. Parce que leur comportement montre qu'ils, en fait, ils ne considèrent pas l'adoration de Dieu comme quelque chose d'important. Leur comportement montre qu'eux, ils ne sont pas particulièrement motivés pour aller adorer Dieu au tabernacle. Ils ne sont pas particulièrement concernés par la sainteté de Dieu. Et puisque Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est une nation choisie, mis à part pour adorer Dieu et refléter sa sainteté. Si quelqu'un se fiche de ces choses, il ne peut pas rester dans la communauté d'Israël. C'est pas possible. Il faut que cette personne parte. Ils ont montré une attitude de mépris envers Dieu. Ou comme le texte dit, ils ont souillé le tabernacle. Ils avaient, on leur a proposé cette option, on avait brûlé la vache, on avait fait la solution avec les cendres, et on a proposé à la personne, et la personne a dit non en fait, ça va, je préfère rester impur. Ils seront séparés du peuple d'Israël. Il y a des situations où rester impur, ça, c'est pas très grave. Si après le poisson, vous avez décidé de ne pas mettre du gel, bon, ça vous concerne. Peut-être que les gens ils seraient un peu moins motivés pour vous serrer la main à la fin du culte, ou peut-être que ça va sentir du poisson chez vous. C'est pas si grave que cela. Notre voiture, on la lave pas très souvent. Normalement, c'était une fois par an. Maintenant, on en fait peut-être un peu plus. Mais ça gêne personne. Si notre voiture elle est sale, ça gêne pas grand monde. Mais c'était autre chose avec le Covid. Si on avait testé positif, on se dit, mais oh, je peux aller au travail quand même. Allez, j'aime bien mes collègues. Je vais aller dans mon bureau où on est 20 dans une petite pièce. Ouais. En fait, ça gêne personne. Ben, si ça gêne. Si ça gêne. Et je ne serais pas étonné si mon patron disait non, mais toi, tu sors. Désolé, mais tu sors. Tu as testé positif, tu n'es pas le bienvenu. Et si je revenais au bureau le lendemain, ben, j'imaginais que voilà, l'accueil sera moins que chaleureux. Mais non! Tu es encore contagieux, tu rentres chez toi et tu restes chez toi. Et si je continuais à me présenter au bureau, bah, ce ne serait pas étonnant si mon chef dit « Mais désolé, t'es viré. Tu n'as pas respecté les règles Covid. » Non, mais tu montres du mépris pour l'entreprise, pour tes collègues. Désolé. Tu as eu le choix de rester chez toi, tu as décidé de venir. Et la Bible nous avertit que l'impureté du péché, c'est très grave. Jésus nous a proposé de nous laver, de nous rendre totalement purs par sa mort, et c'est une nouvelle merveilleuse. Mais il y a également un avertissement que ceux qui n'acceptent pas ce salut, cette purification totale, ceux qui n'acceptent pas cela seront un jour retranchés, séparés de Dieu. Le plan de Dieu pour ce monde, c'est d'éliminer le mal et le péché et le rendre parfait. Mais ça veut dire que seuls ceux qui ont été purifiés par Jésus pourront entrer dans cette nouvelle création et y vivre dans la présence de Dieu. Ceux qui restent impurs, ceux dont le péché n'a pas été réglé à la croix, seront un jour retranchés, exclus, chassés de façon définitive. Ils ne partageront pas les privilèges de ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Ils ne connaîtront que la destruction et la ruine et la mort éternelle. Et donc je dois vous poser la question ce matin, est-ce que vous avez compris cet avertissement? Est-ce que vous l'avez pris à cœur pour vous-même, mais également pour les personnes dans votre entourage? La foi chrétienne, ce n'est pas simplement un petit atout, quelque chose qui rend la vie un peu plus agréable, plus épanouissante. Être purifié par la foi en Jésus, ou bien rester impur dans notre péché. Un jour, cela fera la différence entre la vie éternelle et la mort éternelle. Est-ce que nous avons compris cela? Est-ce que nous avons compris les enjeux? Donc pour conclure, on a vu ce qui rendait les Israélites impurs, comment ils pouvaient redevenir purs, la recette que Dieu a fournie, et pourquoi c'était important. Et bien que nous vivions longtemps après les Israélites dans des circonstances bien différentes, ce passage nous enseigne que nous sommes impurs, non pas à cause de ce que nous touchons, mais de ce qui est dans notre cœur. Que Dieu nous a fourni un moyen pour nous purifier totalement par Jésus et sa mort, et que chacun doit saisir ce remède ou bien être retranché de Dieu.